Ok, Curien, il faut qu'on s'entraîne. Là, je voudrais qu'on fasse une intro. Là, c'est Bob l'éponge, donc on va faire une intro avec Bob et Patrick.
Ouais, tout est plus Patrick, non?
Ok, bah, super. Bon, bah, du coup, ouais, mais il faut qu'on s'entraîne à bien les imiter parce que, tu vois, essayer de faire un truc propre, quoi.
Ok.
Vas-y, fais voir un peu ton Bob. Ça donne quoi?
Hey, salut Patrick! Hey, t'as pas vu Carlo aujourd'hui?
Ok, bon, admettons.
Salut Bob, comment tu vas? Moi, j'ai pas vu Carlo. Carlo est parti, donc Carlo gone.
Ah, c'est rigolo. Et moi, si j'essaye Patrick, je peux peut-être le faire comme ça, hein? Je sais pas trop.
Ah, mais c'est Patrick, on le reconnaît tout de suite. Dis donc, c'est confondant.
Et tu donnais un super bon Carlo, là. Je sais pas si c'était objectif.
Mais non, c'était Bob.
1 hour later.
Hey, non, mon petit Bob, est-ce que t'as pensé à faire les pâtés de crabe?
Hé, hey, salut Bob, je suis un écureuil et je fais cette précision parce que ma voix est absolument pas reconnaissable.
1 eternity later.
Je suis entré dans la matrice.
Oui. Jésus.
Mais il y a Keanu Reeves dans le film, donc j'ai mis Keanu Reeves, je sais pas.
Oh.
Je...
On va faire comme ça, Patrick, mais je suis pas sûr que ça aille bien.
J'aimerais être un flan. Un flan.
Tout ça, c'est des trucs minables, c'est du flan.
Vous laissez pas avoir! À tous les coups, c'est du flan!
Rien que d'y penser, faut l'animer. Et par Curien, bonjour, comment vas-tu?
Bonsoir, ça va bien et toi?
Ça va plutôt bien, c'est Noël dans trois jours au moment où on enregistre. Aujourd'hui, pour continuer hein, dans notre petite série de films récents disponibles sur Netflix, qui est une micro-série de 2 épisodes, c'est particulier, nous allons parler
Parce qu'après, il y a un film récent, mais pas sur Netflix.
Oui, c'est ça. Nous allons parler de Bob l'éponge, le film, Éponge en eau trouble. Mais nous ne serons pas deux pour parler de ce film, puisqu'on ne connaît que dalle à Bob l'éponge, ou très très peu. Nous serons avec Johan. Bonsoir.
Salut. Merci de me recevoir dans le podcast.
Ah bah, merci à toi d'avoir accepté notre invitation, surtout. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, alors je suis Johan Baumal, je suis animateur 3D. Donc je bosse à Illumination, c'est le studio qui a fait tous les mois Moche et Méchant, Les Mignons, Comme des Bêtes, Le Grinch... En 2013, j'avais bossé à Pixar sur la pré-production du Voyage d'Arlo. Et aujourd'hui, en fait, je suis surtout YouTuber dessin. Donc, je fais des vidéos, des tutos pour apprendre à dessiner. Je parle pas mal de Disney, de cinéma et d'animation sur ma chaîne.
Et la chaîne se retrouve à quel... Il faut taper quoi pour trouver?
Tu tapes mon nom, Johan Baumal, et apprendre le dessin. Ça marche bien parce que j'ai un site aussi, apprendledessin.com.
T'as fait notamment une super vidéo de Disneyland Paris où, en mode où est Charlie, donc avec plein de petits détails à trouver, et où Curien et moi on apparaît. Et voilà. C'était trop bien.
J'avais mis plusieurs influenceurs, hein, Disney entre guillemets, ça m'a fait plaisir, c'était cool.
C'était super. Préparez-vous à tout nettoyer parce qu'on parle de Bob l'éponge, le film, Éponge en eau trouble. Une petite annonce avant de commencer, Faut l'animer va faire une pause en janvier. Ça va faire 4 ans qu'on fait des podcasts avec Curien et depuis le lancement de Flan il y a 1 an et demi, on tourne à un podcast par semaine sans vacances. Du coup, bon, on a décidé de prendre un peu de temps pour se reposer et pour réfléchir aussi au futur de ce que nous allons proposer. Vous en saurez plus bientôt, mais en attendant, rassurez-vous les patrons, vous ne serez pas débités en janvier, ce serait injuste de prendre votre argent sans contenu en face. Maintenant que ça s'est dit, et par Curien, on a quand même des gens à remercier. Est-ce que tu es prêt?
Merci.
On remercie Laure, on remercie Matt, merci beaucoup. Amandine, grand merci à Greg et merci à Violaine.
Merci.
C'était le générique de Bob l'éponge.
C'est parti en vrille à la fin, oui. À peu près.
Yes.
C'est ça. C'était plus le générique de à peu près que de Bob l'éponge. Nous allons donc parler de Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble, film américain sorti en 2020. Je ne l'ai pas précisé en intro, mais Johan, tu es un fan de Bob l'éponge, c'est ça?
Je ne sais pas si on pourrait dire fan, mais j'aime beaucoup la série, j'aime beaucoup les premières saisons de la série et le premier film qui était sorti en 2004, je crois. C'est vraiment cette période-là de Bob l'éponge que j'aime beaucoup, quoi.
D'accord. Et par curien, donc là on parle du film qui est sorti il y a juste quelques mois, est-ce que tu peux nous donner le contexte?
Donc Bob l'éponge est une série qui a débuté en 1999 et qui continue encore aujourd'hui de sortir sur Nickelodeon, pardon. La dernière saison a, je crois, est toujours en cours de diffusion, hein, c'est la saison 13, si j'ai bien compris. Et bah autant te dire qu'il y a de quoi faire. Donc on a déjà eu... Est-ce que c'est nécessaire de présenter la série ? Bon, un petit peu vite fait. C'est l'histoire d'une éponge qui habite dans un ananas à Bikini Bottom. Il a son meilleur pote qui s'appelle Patrick. Et tous les deux, ils rendent cinglés leur voisin qui s'appelle Carlo. Il bosse, le petit Bob l'éponge, avec Carlo d'ailleurs, chez le crabe croustillant. Il est excellent dans son métier. Là où Carlo, on va dire que c'est plus discutable, mais donc il est particulièrement stupide en fait, particulièrement naïf. Et c'est ce qui fait un petit peu le charme, j'ai envie de dire, du personnage et son intérêt. Et du coup, il y a un milliard d'autres personnages qui se greffent à ça, dont l'écureuil astronaute avec son globe autour de la tête, c'est toujours incroyable. Énormément de références, un univers très très riche, mais je vais pas faire comme si je le connaissais extrêmement bien, puisque ce n'est pas le cas. Si on se fie plutôt au cinéma, il y a plusieurs films qui ont été qui sont sortis dans l'univers de Bob l'éponge. Il y en a un qui est sorti en 2004, qui est tout simplement Bob l'éponge, le film. Il a plutôt bien marché, puisqu'il avait un budget de production de 30 millions de dollars, et qu'il a rapporté au global 142 millions, ce qui...
Ah oui, propre.
Bah, c'est bien, ouais, c'est vraiment solide, rien à dire là-dessus. Il y a eu un deuxième film qui est sorti en 2015, alors je crois que c'est Une éponge en dehors de la mer ou un truc comme ça, Out of Water.
Ouais, en dehors de l'eau, en dehors de l'eau.
Tout simplement, hein, finalement. Et donc lui, gros succès hein, pour le coup, parce que même si le budget a grimpé d'ailleurs, au niveau des 75 millions de dollars, il en a rapporté 311 dans le monde. Donc vraiment, ça s'est un peu solidifié comme une franchise qui marche au cinéma. Et donc s'il a fallu attendre 11 ans pour voir ce deuxième film, très vite après sa sortie, le réalisateur... Il a été dit qu'ils espéraient pouvoir produire une suite assez rapidement, ce qui a donc été le cas, hein, puisque la Paramount était très motivée pour lancer des suites de ses franchises phares, hein, notamment Walking Dead, je crois, qui en fait partie. Non, je dis n'importe quoi. C'est une catastrophe, je suis désolé. Notamment World War Z, hein. Bon, rien à voir, mais il y a des zombies aussi. Et donc, on a ce film qui devait sortir donc cet été en salle. Il est sorti cet été en salle au Canada, pas ailleurs.
Ah bah oui, forcément. Ah, il était prévu pour le cinéma à la base, d'accord.
Tout à fait, oui. Il devait sortir au cinéma il est sorti au cinéma le 14 août 2020 au Canada.
Ouais.
Il est sorti partout dans le monde sur Netflix le 5 novembre, okay. Sauf aux États-Unis où il sortira sur CBS All Access en février 2021.
D'accord.
Donc pour l'instant, il n'est pas États-Unis. Encore sorti aux États-Unis. Effectivement, c'est assez étonnant.
C'est chelou.
On imagine qu'ils ont leur propre raison de faire ça. Peut-être pour, je sais pas, pousser
les droits et la thune.
Voilà, donc la bonne nouvelle pour ce film, c'est que, bon, déjà, il a réussi à faire 5 millions de dollars au Canada, donc, mine de rien, sur le budget de 60 millions de dollars, ben, c'est déjà ça de prix. Et surtout, en fait, ils ont réussi à rentabiliser le budget de production rien qu'avec les ventes Netflix et CBS.
Oh, bah ça va.
Alors, on sait pas à quel point ils se sont fait de l'argent dessus, mais au moins, c'est rentabilisé. Donc, pendant la production du film, le créateur de Bob, Steve Hillenburg, oui, bon, on va dire ça. Désolé, j'ai fait que mon premier cours de formation d'anglais aujourd'hui, tout est encore très flou dans ma tête.
Et t'as jamais parlé anglais de ta vie ?
Non, jamais, jamais. Il est malheureusement décédé donc le 26 novembre 2018.
Il était hyper jeune. Bon.
57 ans.
Ouais.
Je sais pas si hyper, mais oui,
bon, peut-être pas hyper. Il semblait qu'il était plus jeune que ça encore, mais enfin, c'est jeune quand même. Hein,
effectivement, il était jeune quand même. Et Bah c'est un peu triste hein, pour cette personne qui a toujours été passionnée par l'océan. Très très vite, il a essayé de... Il est devenu professeur de biologie marine sa jeunesse.
Il était professeur de... Enfin, il enseignait aux enfants, en fait, le monde aquatique dans un musée de la mer, je ne sais plus dans quelle ville il était. Et il était aussi passionné d'animation. Donc, c'est ça, en fait, la combinaison de ces deux passions qui l'a amené à faire ce comic strip au début de Bob l'Éponge et de le présenter à Nickelodeon pour faire la série.
Tout à fait. Donc, c'est dans le comté d'Orange, pas loin de Disneyland, en Californie. Ah. Voilà.
Très bien. Donc c'est là qu'il a commencé. Et sur la licence Bob l'Éponge en général, donc on est d'accord que c'est quand même un très gros truc. On parle de 13 saisons, on parle de plusieurs films.
Plus de 500 épisodes. Hein.
Plus de 500 épisodes, ouais, c'est énorme effectivement. Dis donc, ça fait des saisons assez longues. je suis en train de faire le calcul, ça fait pas mal. Peut-être Johan, tu pourras me répondre sur ça. Quelle est la cible de ce public? Parce que j'ai l'impression que c'est typiquement la série un peu moderne qui te parle aux enfants, mais en fait qui a un sous-texte pour les adultes. Je dis une connerie ou pas?
Non, c'est ça. À la base, c'est ça, en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'époque où commence Bob l'Éponge, ça vient après les Simpsons, South Park, qui sont des séries très second degré, très cyniques, tu vois. Et Bob l'Éponge arrive en ramenant un petit peu le cartoon. Donc, beaucoup de squash and stretch, tu vois, de déformation, d'animation cartoon. Ouais. Qui est vraiment le contraire de, par exemple, d'un South Park qui est très rigide. Et ça ramène aussi, voilà, du second degré, de l'humour régressif, beaucoup de gags visuels qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Et je pense que ça a été une vraie nouveauté qui s'adressait, aux enfants, évidemment. Mais le personnage de Bob l'Éponge n'est pas un enfant, en fait. Tu vois, c'est un jeune adulte. Qui est immature, en fait, qui fonctionne comme un enfant. Et quelque part, enfin, moi, si j'aime les premières saisons de Bob l'Éponge, c'est parce que justement, il y a ce traitement de l'enfance, de l'immaturité. C'est un éloge de l'enfance, si tu veux, qui contraste un petit peu avec d'autres personnages comme Carlo, qui est cynique, tu vois, qui est le monde des adultes. Et ça parlait beaucoup aux adultes aussi, enfin les jeunes adultes, les adolescents, les adultes de l'époque. Ça parlait beaucoup de cette idée de on devient adulte, mais en fait on reste enfant, quoi. On assume d'être un petit peu puéril, quoi.
T'as commencé à regarder la série pour les premières saisons ou t'as regardé plus récemment? Tu t'es refait le...
Je regardais parce que c'est mes petits frères qui m'ont amené à ça, tu vois, quand je t'entendais les grands éclats de rire. C'est pas vraiment ma génération au final, donc. C'est mes petits frères qui m'ont amené à la série. Ouais.
Bon, malheureusement, j'ai pas de consensus de critique parce qu'il y a pas beaucoup de critiques. Hein. On connaît, vu que c'est sorti que sur Netflix en plus, c'est pas aux États-Unis.
Je peux te dire que dans Pardon le cinéma, Victor, donc l'ami Victor qu'on a reçu pour le flanc notamment sur le festival d'Annecy, il a un peu défoncé le film.
D'accord.
C'est, je pourrais pas te dire ces mots exacts, mais ça peut peut-être faire l'objet d'un consensus puisque ça fait un.
Non, mais tu vois, finalement, sur Rotten Tomatoes, il a 77% pour les critiques.
Ah ouais?
Alors, pour l'instant, il y en a effectivement que 13, mais
quand même,
voilà.
Ah bah dis donc.
Voilà, c'est assez révélateur. C'est un peu moins bien que le précédent qui avait 81%. Hors de l'eau là, il disait que c'était un excellent film un excellent film très drôle pour les fans du show, et que c'était pas forcément idéal pour les gens qui n'étaient pas déjà fans, mais
ça c'était l'ancien film hein, et sur celui-là
c'est ça le précédent, le suite de 2015. Pour celui-ci on n'a pas de consensus donc. Mais effectivement il est quand même très bien noté en tout cas sur Rotten Tomatoes pour l'instant, mais c'est au tout début, hein. Il n'y a que 13 critiques généralement sur Rotten Tomatoes, t'en as l'autre il en a 104, tu vois, donc
oui.
Ça peut évidemment changer beaucoup,
ça peut pas mal.
Le score du public il est de 57%, donc contre 54 pour le précédent.
Ah ouais.
Pour le premier film de 2004, t'avais pas Rotten Tomatoes, ils avaient mis combien?
Celui de 2004 était moins bien noté par la critique, tu vois. Il avait
68%. Ah ouais.
Il disait que c'était surréellement drôle pour les enfants et les parents, mais il avait que 68% selon
la critique. L'époque où les critiques de ciné ils voyaient de l'animation, ils se passaient un peu le nez.
Ouais, je pense qu'il y a pas mal de ça, surtout de l'animation en 2D et surtout ce qui n'était pas DreamWorks en fait, presque Pixar surtout. Et donc ouais, 68% pour les critiques, 78% pour le public.
Ouais, bah voilà, on a l'effet inverse du coup.
Voilà, exactement.
Assez amusant.
Ok.
Bon. Donc une licence qui a l'air de régresser un peu au niveau de ses films, encore que pas tant que ça, là, c'est mieux. Bon, je sais pas, c'est difficile
de tirer
des plans sur
de
la comète.
Juger
là,
si vite, en fait.
On n'a pas grand-chose, effectivement. Ok. Alors en résumé, Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble, c'est un film d'Eric et Ramsey. Il y a deux personnages cons comme la lune qui tentent de récupérer un truc, en l'occurrence un escargot, et c'est le prétexte pour voir leurs aventures saupoudrées de flashbacks au sein d'une constellation de personnages différents qui, un par un, prouvent qu'ils ne servent à rien, puisque le seul prétexte est de tenter de nous faire rire avec des gags comme au pif les Rolling Tons. Non, je suis pas complètement convaincu. Alors, Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble, est-ce que c'est du flan ou c'est pas du flan ? Johan, c'était la... tu m'as dit en off que tu avais vu deux fois ce film, c'est ça ?
Ouais, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai vu deux fois ce film.
Très très bien, même.
Attends, juste, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, flan, ouais. C'est pas bien.
Oui, flan, c'est pas bien. Si c'est du flan, c'est que c'est pas bien.
Ouais, il faut que ça soit basique pour moi. Alors, ok, c'est du gros, gros flan pour moi. Ouais. Ouais. Okay. Et puis je pense, bon après on va en parler, mais je pense pour les gens qui aiment Bob l'éponge, ce qu'a été Bob l'éponge, ça peut être même énervant, tu vois, de ce qu'ils en font. Voilà.
Ok, je vois le genre. Et par curiosité, toi c'est la première fois que tu voyais ce film ?
Oui, effectivement.
C'est du flan ou c'est pas du flan ?
C'était la première. À ton avis, qu'est-ce que j'en ai pensé ?
Moi je pense que c'est un gros flan pour toi.
J'ai trouvé ça ok, franchement. Pour moi c'est
ah ouais,
pas.
Ah ouais ?
Mais non. Désolé. Alors j'ai pas trouvé ça absolument génial, mais il y a des aspects qui m'ont beaucoup plu. Je trouve que visuellement le film il est vraiment très très intéressant.
Ouais.
Je trouve que je sais pas, j'ai passé un bon moment devant. Après c'est pas extrêmement drôle. J'ai du mal, j'ai pas le référentiel de si d'habitude Bob l'éponge c'est vraiment beaucoup plus drôle. Oui. Parce que là c'est vrai que c'est un peu l'humour est pas flamboyant quand même. Y a les caméos à la con qui m'ont fait rire. Ça c'est le seul truc. Voilà.
Ah ouais.
Je comprends pas ce qu'ils foutent là, mais ça, je sais pas, c'est con et c'est marrant. Tu sais, ça fait vraiment parodie de série B des années 80, mais est-ce vraiment une parodie
avant le podcast non plus, mais...
Je ne sais pas, mais ouais, enfin c'est vraiment mon ressenti.
Ok.
Et ouais, c'est surtout le visuel qui m'a conquis, on va dire. Mais même okay. Si je peux comprendre qu'il soit frustrant le visuel pour les gens qui ont l'habitude.
Et ben pour ma part, non, c'est du flan. C'est très joli, ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est plus creux qu'un épisode de Plus belle la vie, quoi. Il se passe rien. Ça m'a à peine fait rire et j'ai trouvé ça hyper convenu. Et le pire, bah, je le redis, hein, c'est que c'est vraiment très joli, mais bah, c'est pas suffisant à mes yeux. Mais pour vous aider à déterminer si Bob l'éponge, le film, éponge en eau trouble, ce nom est beaucoup trop long, c'est du flan, ou si c'est pas du flan, parlons-en plus en détail. Even when I'm on, I'm off, y'all. Looking for the king, get a cost, y'all. You better leave now or you're lost, dawg. The zombie king, yeah, I hear him coming. OG ghoul with a thirst for the running. You in the wrong bar, wrong town. Got a spot to feel the real deal coming down that hill. Your brains for breakfast, soul on the menu, major checklist. Ghouls, goblins, guard the exit. The fire in his eyes ain't hard to catch it. El Diablo, the haunting, tattoo, death that I know. Scary, God knows the gonna go to where the drama is. But don't hate the game, we in a zombie biz. Yes, sir. What? 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 Together. Alors, donc on l'a dit, on l'a à peine mentionné, mais c'est vrai que c'est ce film place Bob l'éponge dans un univers en 3D, là où d'habitude il est plutôt en 2D. Et
effectivement, c'est la première fois que c'est animé en CGI Bob l'éponge, en tout cas pour le ciné.
Alors j'imagine que ça
le
fait.
Excuse-moi.
Ouais, vas-y.
Le deuxième film, la fin du film était en 3D. Quand il sort de l'eau,
d'accord.
C'était en 3D. Là, c'est le premier film qui est full 3D. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est okay, full 3D. Effectivement, le deuxième film, il voulait marquer pour le moment où il sort de l'eau.
Voilà. Mais les décors étaient réels, en fait. Il y avait des acteurs et tout.
Mm. Ce qu'on retrouve un petit peu dans ce film-là, d'ailleurs, on va en reparler. Alors, du coup, j'imagine pour les fans de Bob l'éponge, ça doit faire un choc de passer d'un seul coup à la 3D. Johan, toi, tu la trouves comment, cette 3D ?
Non. La 3D, je la trouve magnifique. L'animation, je la trouve magnifique. C'est En fait, c'est 3D, mais il y a un effet un petit peu anime 2D, un peu stop-mo même. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est l'animation est un peu saccadée en fait.
Je me suis vraiment posé la question tout de suite. Je me suis demandé si ce n'était pas de la stop-motion sur le coup. Ouais. Et après, tu te rends compte que non, mais c'est vrai que sur le moment, je me suis vraiment posé la question. Et après, tu te rends compte que non, c'est juste ils ont voulu faire un espèce de rendu où ce n'est pas 24 images secondes, voilà. Je pense.
Ouais,
c'est
animé à 12 images secondes en fait, tout le film.
Ouais, okay. ça fait de l'animation limitée, du coup c'est un choix étonnant, mm-hmm.
Mais qui ramène à la série.
En soi, ça rend vraiment bien, je trouve.
Et en fait, ça ramène à la série, et ce qui éloigne du côté stop-mo, par contre, c'est qu'ils ont gardé ce côté très cartoon de l'animation. Beaucoup de déformations, ouais. Et ça, c'est plutôt rare avec l'effet stop-mo, quoi. Donc moi j'ai adoré l'animation et oui visuellement je trouve le film magnifique quoi.
Je pense qu'on est assez d'accord à ce niveau-là. Ce qui m'a le plus bluffé c'est les décors. Je veux dire tout le début là il y a un genre de travelling sous l'eau qui marche très bien. Il y a le casino qui est magnifique, qui est vibrant de vie. Alors il y a beaucoup de lumière et de bruit pour masquer le fait qu'il n'y a pas tant de personnages que ça dans la ville où il y a le casino. Mais
tout Atlantic City. Ouais.
Mais ça fonctionne, je trouve ça très joli. Le château du roi est magnifique également. Même les cachots, tu sais, il y a un jeu de lumière qui fonctionne bien. Camp Corail, tout. J'ai trouvé vraiment tout ça très joli.
Ouais non, moi je te rejoins pas mal là-dessus, effectivement. C'est assez riche. En fait, presque Bikini Bottom me paraît presque un peu terne en fait par rapport au reste, parce que je pense qu'ils ont pas osé trop toucher.
C'est vrai que je l'ai pas mentionné parce que pour le coup, comme en plus je connaissais déjà un petit peu, j'ai pas été surpris en fait.
Mais sinon oui, le reste, je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment c'est très réussi.
En termes d'animation, bon, Johan a tout dit, hein, ça fonctionne très très bien. En fait, on sent le côté presque Tex Avery de la 3D un peu quoi.
Ouais, carrément. Et ça vient de la série en elle-même. C'est très très Tex Avery en fait, Bob l'éponge quoi. C'est au niveau des yeux qui sortent des orbites, de la façon dont ils vont se transformer, tu vois, des objets vont devenir vivants. Enfin, ça c'est bien retranscrit dans le film. En fait, c'est très fidèle à la série. D'ailleurs, le film se dit être un hommage à la série et au créateur du coup.
D'accord.
Enfin, à la fin, tu vois, du film, il y a le dédié.
Vrai qu'il est dédié, ouais, bien sûr.
Voilà. Et ça, ils ont vraiment respecté, ces principes, en tout cas de forme, dans la forme de la série.
Mais dans le fond, beaucoup moins. On va y revenir. Juste avant de passer au fond, justement, il y a des idées créatives aussi que je trouve dingues. C'est con, mais à un moment donné, ils sont sous l'eau. Et pour aller d'un point A à un point B, ils montent dans un bateau qui roule sous l'eau et qui sert de voiture et qui, à la fin, finit par être une voiture en dehors de l'eau aussi. Enfin, des trucs comme ça, moi, ça n'a aucun sens, ça me fait marrer, tu vois. Parlé de la voiture pâtée, parce que là, on est encore sur autre chose.
La voiture burger, elle est dans le premier film.
D'accord.
Mais oui, c'est l'idée d'un humour absurde, quoi. Et, ouais. Et si on peut parler rapidement du design, parce que moi j'adore le principe du design de Bob l'éponge, c'est que bah, c'est un carré, tu vois, parce que en anglais on dit SpongeBob SquarePants, donc c'est pantalon carré. Et c'est une sorte de paradoxe en fait en design, parce que tu vois les designs des personnages qui sont tout en rondeur en général, qui sont joviales, c'est Mickey en fait. On utilise très souvent en fait le rond, l'arrondi pour faire des personnages qui vont être aimés surtout par les enfants. Et là, t'as les deux personnages principaux, c'est un carré et Patrick, c'est un triangle, qui sont des formes. Tu vois, le carré, c'est plus stable, c'est pour des personnages bornés un peu. Tu vois, c'est colère dans là-haut, c'est colère dans up. Attends.
Ouais. Dans Vice Versa.
Voilà, c'est Inside ça. Out. C'est colère dans Vice Versa et c'est le vieux dans Up.
Et Carl.
Voilà, Carl. Et par exemple, le triangle, c'est plus pour les personnes. En général, pour les méchants, tu vois, c'est Maléfique, c'est Maléfice, c'est Jafar, tu vois, c'est des personnages comme ça. Et là, c'est les deux personnages qui sont censés être très enfantins, qui, pour plaire à un public aussi d'enfants, sont un paradoxe en fait en termes de design.
Et pourtant, ça fonctionne, ils plaisent quand même beaucoup aux enfants, quoi.
Carrément, carrément. Mais ils jouent avec les codes du cartoon en fait, comme ça.
Après, on est d'accord que sur les personnages en eux-mêmes, arrête-moi si j'ai une bêtise, mais le rond est quand même énormément rappelé. Il a des yeux énormes, il a un nez tout rond, il a tous les aspérités de l'éponge un peu sur lui. Et un peu la même chose pour Carlo aussi, où on a son nombril, on a ses mains qui sont vraiment toutes rondes. Et j'imagine que c'est un petit peu comme ça qui permet de garder ce côté attachant peut-être
Exactement.
Et naïf tout en... en utilisant ces formes ouais, originales.
Ah ouais, exactement. Mais du coup, ils incarnent aussi du coup, le paradoxe et l'absurdité. Et c'est pour ça qu'après, ça s'étend au niveau de l'humour, qui est un humour absurde, quoi.
D'autant que je dis peut-être des bêtises encore une fois, mais est-ce que le carré est peut-être une forme un peu plus difficile à animer de façon drôle, en fait? Tu parlais des déformations un petit peu dans l'animation. Bah, un carré déformé, c'est peut-être moins évident quelque chose de plus arrondi, non?
Ouais, en fait, il y a un moment, je sais plus à quelle saison, mais justement, il y a un moment où le carré de Bob l'éponge était très peu déformé. Donc je sais plus, il faudrait regarder quelle année ils ont fait ça, mais ça allait un petit peu avec le style d'animation de l'époque où c'était très stiff, quoi, très très rigide, et ça marchait beaucoup moins bien. Le carré, tu vois, je pense au tapis de Aladdin, tu vois, qui est un carré, mais en fait il est extrêmement déformable et ça marche dans ce sens-là. Mais effectivement, le carré symbolise la stabilité, l'immobilité, et c'est pour ça qu'un personnage comme Karl, tu vois, il est carré parce que justement il est ancré, il est vieux dans sa vie, dans sa maison, et le fait qu'il s'envole avec des ballons, tu vois, c'est toute l'image poétique que permet en fait ce genre d'image de design, en fait.
D'accord.
Ok, c'est hyper intéressant tout ça. Ça donne des clés de lecture que j'avais pas nécessairement en regardant ce truc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'est des bons points qu'on donne à la série et pas nécessairement au film. Pour le coup, le film reprend ces éléments-là,
voilà.
Et les utilise. Bon, il les exploite, hein, y a pas de problème. Mais ça n'a pas été créé pour le film.
Niveau visuel, le film, par contre, il a ses particularités. Du coup, en plus de la 3D.
Tu penses à quoi?
Ah bah je pense au passage live action carrément. Oui.
Alors parlons-en. Tu disais tout à l'heure que Johan, que dans un film précédent, au moment où ils sortent de l'eau, c'était passé à la 3D pour faire une transition. Là, comme tout était en 3D, quand ils sortent de l'eau, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont mis bah, dans un vrai film. Et alors déjà, déjà je me suis senti très très con quand au début j'ai noté waouh, mais ils ont super bien fait le Far West, il est trop beau. Je dis, oui bah oui.
J'ai eu la même réflexion de tu n'es pas seul.
Ok, ça me rassure.
Au bout d'un moment, tu vas, ah bah non, je suis complètement con. Voilà.
Bah, un peu, ouais, tu te sens bête hein, sur le moment. Mais alors, est-ce qu'on peut s'arrêter 3 secondes sur ce passage quand même? Parce que déjà, qu'est-ce que Keanu Reeves fout là?
Qu'est-ce que Keanu Reeves fout là? Et qu'est-ce que Snoop Dogg fout là?
Voilà. Qu'est-ce que Snoop Dogg fout là?
Et Old El Paso.
Aussi. Ah ouais. C'est incroyable.
Ça fait beaucoup.
Ça a aucun sens. D'un coup, donc, on se retrouve dans un film live avec des zombies pirates mangeurs de cerveaux qui se mettent à danser avec Snoop Dogg. Mais je comprends rien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Zombie cowboy pirate.
Cowboy
pirate, c'est les deux réunis.
Oui.
Ouais, c'est très étrange.
Il y a tout, quoi. Et ça n'a aucun sens ce qui se passe. Mais vraiment, j'ai passé. Et ça dure 15 minutes. Le film fait quoi? 1h25, je crois. Et t'as 15 minutes d'un truc qui part en vrille dans les grandes largeurs et qui à la fin ne sert pas à grand chose puisque bah à la fin il se réveille, quoi.
Bah ouais. Oui,
ça sert juste à introduire le personnage de Reeves, en fait.
De
le guide spirituel, en fait.
Sauage.
C'est ça. Comment ça s'appelle? Sauage.
Sauage.
Sauage. Ouais.
Sauage. Ouais. Donc qui est dans une boule de poussière de Far West, quoi. T'as eu la tête de Keanu qui va suivre nos héros pendant tout le film et puis revenir régulièrement pour leur donner des conseils et faire des blagues.
C'est
j'ai
nul.
Pas compris.
Désolé, je suis un peu violent, mais non, mais c'est le moment aussi quand même où il lui donne, je crois, le jeton du courage.
Le jeton de bravoure, oui, effectivement.
Voilà,
après, je trouve qu'il y a un côté. Alors, je sais pas si c'est voulu, mais entre la pilosité de Keanu et le fait qu'il apparaisse dans un buisson, bon, il y a quand même des références qui me paraissent assez évidentes.
Oui,
un buisson ardent, même.
Complètement, complètement. Mais après, je sais pas si j'ai envie de penser que Bob l'éponge c'est Moïse, tu vois. Je suis pas sûr.
Mais je sais pas, mais je trouve ça drôle, en fait. Enfin, dans le concept, le fait d'avoir eu l'idée et d'avoir réalisé ça, je trouve ça génial. Après, est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. Peut-être pas du tout. Mais, je trouve ça burlesque et, moi, ça me fait marrer pour le coup. Après, c'est vrai que c'est un choix particulier, quoi.
Mais après, est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans le...
Dans le méta, oui. Si, on est trop dans le méta, clairement.
Ah, on est à fond dans le méta. Mais on est aussi dans le caméo, pour le caméo, quoi. C'est le syndrome un petit peu Astérix aux Jeux Olympiques. Hein, un peu ce qu'on
oui.
C'est-à-dire que on a Snoop Dogg, mais il fait quoi, en fait? Bon, il chante une chanson, mais... Dans Bob l'éponge, il y a depuis le début aussi un aspect très... drogue, hein, pour le dire simplement. C'est complètement barré et c'est presque, enfin c'est pas du tout caché par les créateurs quoi. Il y a, quand tu regardes le premier film, il y a toute une séquence qui est où le sucre remplace la coke, hein, et la drogue et l'alcool, et ils vont subir des effets un petit peu hallucinogènes comme ça. Et quelque part là, t'as Snoop Dogg quand même, l'empereur de la drogue, et ils en font rien en fait. Il est juste là, il chante. Après, t'as Old El Paso qui arrive, mais pour tout de suite disparaître. C'est-à-dire qu'il n'a aucune action dans le scénario.
Il fait même une blague là-dessus, en fait. C'est assez étrange. Il fait « Bon, bah maintenant, faut que j'y aille. »
Ouais, voilà. ouais, exactement.
Je suis venu vraiment toucher mon café, faire ma blague et repartir, quoi.
Exactement. Et je trouve ça aussi très comme old school, quoi. C'est-à-dire que ça, me voir Snoop Dogg qui apparaît dans un film, ça me fait plus du tout rien, en fait, tu vois.
Bah non, c'est juste, tu te demandes ce qu'il fout là, quoi. Et c'est terrible, mais on a eu ce mois-ci, on a eu Cyberpunk 2077, un jeu vidéo où il y a Keanu Reeves qui, pour le coup, a un personnage très important. Je vais pas révéler parce que je vais pas spoiler des gens sur ce jeu vidéo. Et je me dis, mais dans la même année, donc, vous avez utilisé superbement Keanu, et puis vous l'avez. Enfin, faites pas n'importe quoi avec un Keanu Reeves, c'est précieux.
Ouais, heureusement que Patrick 4 arrive.
Ouais, on va voir. On va voir. Mais ok, mais bon. Voilà, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait, mais à la rigueur. En fait, ouais, j'ai noté
au moins
ça.
Son personnage
c'est un délire
un
de
petit...
scénariste, en fait.
Ouais.
C'est les scénaristes qui se voient et qui se disent oh, j'ai envie de mettre Keanu Reeves dans le film, vas-y, on le met dans un buisson.
Mais tu vois, à un moment, l'absurde ne peut pas être une excuse, en fait, pour tout, tu vois, sur un film d'une heure et demie. Après, en fait, tu t'ennuies, quoi, tu vois. Si tu regardes, tu vas faire comme moi, tu vas regarder une deuxième fois, ça va être encore plus horrible.
Tu vois, la vache. Oui, j'avoue.
Le temps passe très lentement, quoi.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que ce passage est trop long. En plus, c'est assez mal fichu.
15 minutes.
Ouais. Et c'est un peu dommage, ouais. Mais enfin, je maintiens que l'idée me fait rire. Après, je la justifie pas, quoi. Enfin, ça m'a fait marrer. Maintenant, non, peut-être qu'effectivement, ils auraient pas dû. Mais, voilà.
Et du coup, ça m'emmène au point suivant, qu'on a déjà pas mal abordé. C'est le point, par contre, on s'emmerde. parce que j'ai noté au fur et à mesure, déjà, au bout de 20 minutes de film, j'avais pas esquissé un sourire du tout. Vraiment, l'humour ne m'a pas touché une seule fois ou très très peu, quoi. Et enfin, pourtant, je suis quand même plutôt bon public.
Ouais, pareil de mon côté, j'ai pas rigolé, je pense pas avoir souri. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont aussi des redites de gags, hein, de Bob l'éponge, donc qui sont en fait déjà vues. Et le peu de nouveau, effectivement, n'est pas très drôle, malheureusement.
C'est un peu la facilité quand tu dis que tu vas faire un hommage, c'est que derrière, tu peux reprendre les gags de la série.
Exactement.
Tu dis, ah, non, mais c'est un hommage, on les met à l'écran, sur le grand écran, et soyez heureux, voilà, quoi. Enfin, c'est vrai que ça, c'est un peu frustrant. Mmh. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui était vraiment transcendant sur l'humour. Là, j'ai pas de grand-chose pour défendre.
Il y a deux trucs qui m'ont fait un peu rire. Il y a le décret du roi où il y a écrit en toutes lettres blablabla bla bla pour sauter les passages un peu chiants. Je trouvais ça un peu rigolo. Mmh. Et Patrick qui s'arrête au buffet où il y a du manger gratuit. Voilà. C'est peut-être parce que ça me parle que ça résonne en quelque chose en moi, je sais pas. mais ouais, ça m'a fait. Mais ça va vraiment pas chercher plus loin, quoi. Alors, sur le coup, je me suis dit, quoi, je suis pas d'humeur ou c'est quoi le bail, quoi. Mais bon, je pense pas que ce soit ça.
Non, c'est juste un peu plat, je pense. Hein. Enfin, je pense que c'est vraiment un peu.
C'est convenu.
Un peu convenu, ouais, effectivement. Mmh. Mais alors, on va dire que je m'acharne un petit peu. Les scénaristes sont ceux de Kung Fu Panda, la trilogie. Est-ce que je ne dirais rien de plus?
On n'a rien dit de plus.
Mais
on a vu Kung Fu Panda 3 à 2 avec Coréen à un réveillon et il m'en veut encore.
J'ai toujours pas vu les deux premiers par ailleurs. Donc c'est Jonathan Abel et Glenn Berger.
Berger. C'est important Berger. De créditer.
Oui, Berger sans doute, un américain, c'est probable.
Oui.
Le frère de Michel.
Michel Berger.
Voilà, celui-là même. Mais ouais, c'est frustrant parce que ce film il est bien foutu, il a de superbes décors, il y a plein d'idées, mais t'as une histoire. Parce qu'on a parlé que de l'humour, mais l'histoire elle est toute pourrie aussi, quoi. C'est d'une tristesse. C'est-à-dire qu'ils te mettent en place un enjeu au début, mais qui est juste un prétexte pour faire à la fin une succession de flashbacks.
Après, tiens, je repense juste au fait que tu disais qu'il n'y a rien eu de drôle. Moi j'ai bien aimé le moment où ils assument le fait que c'est un buddy movie un peu. Tu sais, le...
Oui,
ils prennent la bagnole et ils font « Ah ouais hein, !» Et puis là, on va s'engueuler et puis pour une connerie. Puis à la fin, on va se rendre compte qu'en fait, on est rien l'un sans l'autre et tout. Et tu te dis, ils sont en train de pitcher le film et, parce qu'il y a 80% de chances que ce soit comme ça. Et en fait, ils te désamorcent le truc en le faisant en l'espace de 40 secondes. Ce que j'ai trouvé plutôt, plutôt malin. Pour
c'était malin, ça m'a plu aussi, mais c'est pareil. J'étais pas à me taper sur les cuisses alors qu'il y aurait sans doute moyen de faire un truc
non.
drôle. Quoi.
Non, clairement, non.
Moi, je pense aussi que ça vient de un petit peu de la platitude des personnages, en fait. Ils sont devenus un peu clichés. Je sais pas si vous connaissez le concept de flanderisation.
C'est un rapport avec Flanders des Simpsons.
Voilà. Ça, c'est le problème des séries, en fait, qui deviennent trop longues. Ils savent plus quoi faire de leurs personnages. Et en fait, les personnages, pour en fait en faire un ressort comique facile, ne répondent plus qu'à un seul trait de caractère. En gros, l'idée, c'était que Flanders, au début, c'était le voisin insupportable, l'opposé total de Homer, mais c'était un personnage multifacette. Et avec le temps de la série, il est devenu simplement un extrémiste religieux, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on appelle la flanderisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste le caricaturer à un seul trait, et il va servir comme ça à faire des gags. Et quand tu regardes l'introduction du film de Bob l'Éponge, tu sais, chaque personnage est présenté par... un gag et donc Patrick bon il fait tomber sa glace, Carlo c'est un artiste raté donc voilà il joue mal de la flûte,
il joue mal sa flûte
voilà et ça c'est t'as Sandy qui est la savante tu sais qui est un peu la savante folle
la
tu
scientifique
vois voilà la scientifique, le crabe il est cupide tu vois donc il compte son argent et du coup en fait c'est quelque part dès le début le film il t'explique que nos personnages en fait c'est juste un trait de caractère, c'est juste une seule chose, tu vois. Et ça empêche, en fait, pour moi, hein, d'avoir de vrais bons gags, en fait. Ce sont des gags très faciles et qu'on a déjà vus mille fois. Donc, c'est pour ça qu'ils nous font pas rire, parce que les gags sont là, quand même. Il y a plein de gags, mais ils font pas rire parce que c'est déjà vu mille fois, en fait.
Et il y a zéro surprise, même. Alors, je le disais au tout début du podcast, moi, j'ai déjà vu peut-être 3-4 épisodes de Bob l'Éponge, ça va pas chercher plus loin. Mais je les connaissais, tous ces persos, en fait. Même le petit Plancton, là, qui est un génie du mal un peu nul. Je l'avais déjà vu et j'ai pas été surpris une seule seconde devant ces personnages. Bah ouais, effectivement, le crabe il est cupide. Bon, bah oui, il fait son pixou et puis on n'en parle plus quoi. Et même le nouveau personnage, enfin les quelques nouveaux, mais là je pense au roi Poséidon. D'accord, c'est un éphèbe qui aime bien quand il est beau et qui veut être beau et c'est pour ça qu'il est méchant pour voler l'escargot de Bob l'Éponge qui lui permet de qui lui sert d'antiride, bon pourquoi pas, mais il y a que ça, encore une fois il est unilatéral quoi.
Voilà.
Oui, c'est vrai que tout est très unidimensionnel et finalement du coup l'histoire le devient et je me demande si c'est pas justement un peu pour essayer de combattre ça qu'ils sont partis dans des délires totalement étrangers à la série et même à l'histoire du film finalement pour un peu montrer que ah regardez c'est toujours un peu loufoque Bob l'Éponge, sauf que non, ce qu'on a vu, c'était pas si loufoque que ça, quoi. C'était vraiment un peu gentillé.
Ouais. Et en fait, quand tu fais des personnages comme ça, qui sont unidimensionnels, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils deviennent tous bêtes, en fait. Tu vois,
c'est vrai.
Donc tous les personnages sont bêtes et tu perds de la cohérence, quoi.
Bah, puis t'as plus beaucoup d'empathie pour des idiots qui font des trucs au pif, quoi. Je me suis dit, cela dit, comme je le disais tout à l'heure, que la fin, c'était quand même, t'as 20 minutes où c'est une succession de flashbacks pour montrer, moi j'ai rencontré Bob l'Éponge de cette façon, etc. Et quand t'as compris qu'au troisième qui te le fait, tu te dis, ça y est, ils vont tous les faire un par un. À Camp Corail, j'ai rencontré Bob, et puis j'étais déjà un artiste raté, mais il m'a réconforté, et puis moi j'ai été cupide, mais bref, chacun y va de sa petite anecdote. Je pense que l'idée c'était de faire justement un peu un hommage à la série et donc au créateur de cette façon-là.
Alors c'est beaucoup plus cynique que ça. En vrai, il va y avoir un spin-off de la série qui va s'appeler, alors je sais pas s'il va s'appeler Camp Coral, mais en tout cas ça va être ça l'idée, c'est-à-dire que ça va être la jeunesse de Bob l'Éponge avec tous ses personnages, ses amis qui, alors juste en plus le film se fout complètement et se veut un hommage de la série mais n'est pas cohérent avec la série parce que il y a des personnages qu'on connaît en fait la façon dont ils se sont rencontrés dans la série et c'est pas du tout comme c'est dit dans le film, donc déjà il y a des contradictions énormes.
Okay.
Et ça pose déjà un gros problème et en fait toute la dernière partie, le troisième acte en fait, est une pub pour le spin-off.
Ouais, donc, ça sert de pilote un peu pas pété.
Donc ça, tu vois, quand, c'est pour ça que je te disais au début qu'il y a un petit côté énervant hein, quand t'es fan, parce qu'il y a cette ouais. idée de vouloir rendre hommage. Mais au final, ce qu'ils font, c'est exactement le contraire, parce que le créateur original, en fait, était contre. Enfin bon, c'est pas prouvé, hein, mais des amis ont parlé, ils ont tweeté des gens qui ont bossé sur la série qui disaient qu'en fait, il était absolument contre ces spin-offs et l'idée de faire même de Bob l'éponge un enfant. Tu vois, c'est très important de faire cette différenciation qu'en fait, c'est un adulte qui se prend pour un enfant. Et finalement, avec le temps, avec la série, lui aussi est devenu unidimensionnel. Il s'est ouais. flanderisé et il est devenu un enfant, tu vois. Et ça, le créateur original s'était toujours battu contre ça. Et Nickelodeon ont annoncé le spin-off 3 semaines après la mort du créateur. Donc il y a quelque chose d'un peu sale, horrible. Quoi.
Effectivement.
Et ce troisième acte, en fait, c'est une publicité, tu vois. Donc c'est. Tu te dis, bon, c'est énervant, quoi.
C'est dur, c'est très très dur. J'ai pas beaucoup d'affection pour ce film. J'ai beaucoup d'affection en revanche pour les. Encore une fois, on le redit, hein, les décors, l'animation, etc. Tout ça est dingue. Donc, je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des créatifs qui sont mis dans ce taf et ça a bien fonctionné. J'ai découvert dans le générique que c'était Hans Zimmer qui avait fait la musique. C'est là que je me suis aperçu que j'avais absolument rien retenu de la musique. Donc,
vraiment. Pas remarquable du tout. Limite, tu vas plus retenir les gens qui sont venus cachetonner pour faire des petits numéros musicaux, mais et encore quoi, parce qu'ils sont vraiment pas mémorables. Hein.
Enfin, ce gag de Carlo qui chante du Céline Dion et qui le refait une deuxième fois, je veux dire, le gag a peut-être fonctionné la première fois, fais-le pas une deuxième fois. J'en pouvais plus, moi, de Titanic. Est-ce qu'on a d'autres anecdotes ou d'autres choses à dire sur ce film ?
Pour rester sur le côté un peu méta.
Ouais.
Ce que je trouve, enfin, il y a quand même un côté où, je sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais c'est comme si en fait ils assumaient aussi que quelque part Bob l'éponge c'était leur vache à lait, quoi, entre guillemets.
Ouais.
C'est-à-dire que ça fait 20 ans hein, que ça existe Bob l'éponge et on l'a dit au début du podcast, l'argent que ça génère c'est énorme et en fait le créateur est parti au bout de la, en fait il a fait les 3 premières saisons, le créateur. J'arrive jamais à retenir son nom, c'est Stephen Hillenburg, et il avait fait le premier film, tu vois, il avait réalisé le premier film, et pour lui en fait le premier film c'était la fin, il clôturait la série, mais les ratings étaient trop forts, donc en fait voilà, Nickelodeon a continué contre l'avis du créateur. Et tu sens dans cette histoire finalement, parce que bon, on n'a pas trop parlé de l'histoire de Plankton qui veut voler la recette secrète du pâté de crabe comme d'habitude, hein. Mais que du coup en fait il arrive à la prendre parce que Bob l'éponge étant parti, le crabe croustillant ne marche plus, Krabs est déprimé et en fait ils se rendent compte, c'est ça en fait, un petit peu ce que raconte le film, que c'était Bob l'éponge la recette secrète, quoi. Et sans Bob l'éponge en fait ça marche pas, enfin ils font pas d'argent, quoi. Donc il y a ce truc un peu méta,
ce truc là aurait pu être un super élément de scénario et c'est rushé et mal fait et tu retiens pas ça comme l'élément principal du film alors que je trouve que c'était une jolie idée.
Bah tu te demandes pourquoi Plankton il vient avec eux au final.
Mais ouais, genre du coup ça devient comme c'est pas l'enjeu principal parce que l'enjeu c'est l'escargot.
Il a réussi son plan, Plankton, il a réussi enfin à avoir la recette et tout, et au final il dit oh bah non, je vais venir vous aider pour sauver Bob l'éponge. Ça n'a pas de sens scénaristique.
Non.
Ah, parce que je pense que l'idée c'est un petit peu que sa vengeance elle est un peu nulle parce que il a juste réussi à enlever à l'autre et finalement il voit que ça lui apporte rien, mais c'est vrai que c'est pas hyper bien développé, quoi.
Ah ça, ouais,
ça c'est dommage.
Je pense que c'est l'idée mais que c'est un
ouais,
peu
ouais.
Ouais, c'est vraiment
raison,
expédié,
c'est ça, mais...
et ça marche pas trop effectivement. est-ce que tu veux parler rapidement du réalisateur? C'est Tim Hill qui réalise, donc j'ai pas forcément grand chose à dire dessus. C'est lui qui avait réalisé Garfield 2, voilà. Je sais pas quoi te dire.
Alors oui, j'ai vu le film live. Hein. OK.
Il a
j'ai
pas réalisé les Muppets dans l'espace aussi?
Si, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait, les Muppets dans l'espace et aussi donc le premier Alvin et les Chipmunks, voilà.
Ah, oh bah c'est stylé ça, bah voilà, il fait les bons trucs.
Ok.
Oh, si.
Alors, Garfield, on va dire 2, que tout est une question de coup.
J'ai vu Garfield 1 et tout ce que j'en retiens, c'est que j'avais vu la version québécoise et qu'ils avaient un accent à couper au couteau, c'était hilarant.
Mais vraiment. Et mais par contre, je retiens rien de plus de ce film. À part qu'il réussissait à faire des jolies intégrations d'animaux en CGI dans des films live. Bon, là, on arrive un peu sur le même bail dans une partie du film, finalement.
Du coup, si on regarde sa filmographie, on voit qu'il a énormément fait ça, en fait. Il a beaucoup fait de films qui mélangent un petit peu animation, notamment, surtout CGI, et prise de vue réelle. Tu as Hop aussi, qui est un film du même style, sorti en 2011. Tu sens que c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés le chercher, lui. Après, peut-être qu'ils sont pas allés assez à fond dans le truc, tu vois. Enfin, on avait fait un podcast sur Roger Rabbit, et clairement, tu sentais que là, bah, l'intérêt de faire du live action existait, alors qu'ici c'est de l'ordre du caméo en fait. La partie live action elle dure 15 minutes au milieu, ça a pas trop de sens, mais
c'est
ouais, je pense
que par rapport à l'histoire, quoi,
ça sent vraiment un petit peu la décision marketing pas très réfléchie, mais un peu forcée, quoi.
Effectivement. Du coup, il part que rien. Est-ce que t'as des critiques pour ce film?
J'en ai quelques-unes, effectivement. On en a. Tu veux de la bonne ou de la mauvaise en premier?
Commence par de la bonne. Je veux savoir ce que les gens disent bien sur ce film. Il est joli.
Donc il y a Renaud Barognan qui a écrit pour Le Parisien que Bob l'éponge, éponge en eau trouble, multiplie les gags délirants et les bonnes surprises. Il met 4 étoiles.
Oh, mais
je te rassure un petit peu, c'est un peu le seul, hein.
Ok, d'accord. Parce que donc, tu disais au début de podcast que le Rotten Tomatoes était excellent et je comprends toujours pas pourquoi, en fait. À part, il est joli. Mais si là, le gars, il a vu plein de gags délirants, je pense que dans sa vie, il est un peu triste.
oui, c'est vrai que je sais pas non plus. T'as Elodie Bardinet qui dit pour première que c'est une suite sympathique mais moins folle que prévu. Elle met 3 étoiles, du coup.
Ouais.
Chez Télérama, il y a Marisol Vion qui dit que si elle suscite le sourire, la folie volontariste de ce buddy movie, je vais pas y arriver. La folie volontariste de ce buddy movie ne suffit pas à doper un scénario faiblard enlisé dans une ode à l'amitié et un retour aux origines trop gentillé pour décoiffer vraiment. Je la trouve plutôt juste, hein, pour
oui,
le coup, et avec 3 étoiles. En fait, je me reconnais plutôt pas mal dans son avis. J'avoue que j'avais pas trop le contexte de la publicité à la fin. On va revenir dessus parce qu'il y a une dose de cynique derrière que je vous apporte dans quelques minutes. Mais okay. On va finir avec Écran Large et Déborah Lechner, je ne sais pas, qui dit que Bob l'éponge, le film éponge en eau trouble, a beau être beau, drôle ou audacieux, tente maladroitement de réinsuffler au spectateur l'esprit halluciné et l'ambiance électrisante de la série avant de piétiner l'œuvre de Hillenburg dans son troisième acte, ce qui ne sert qu'à promouvoir le prochain spin-off et préquel de Nickelodeon.
Voilà.
Johan.
Voilà.
Johan. Est-ce que ton pseudonyme est Déborah Lechner?
Exactement.
Elle met 2 étoiles.
C'est moi. Ah non, bah non, j'en aurais mis 1, tu vois. Donc c'est pas moi.
Et boum.
Par contre, elle dit quand même qu'il est beau, drôle et audacieux.
Alors beau, audacieux, je peux accepter. Drôle, j'ai toujours du mal, mais bon, admettons.
Ouais, il y a des moments, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais, là où je voulais en venir, c'est que vous vous souvenez quand je vous ai dit que ça sortait en février aux US?
Ouais.
Ouais.
Est-ce que vous sentez la...
Il est déjà sorti.
Et puis...
non, sur CBS All Access, il sort en février, effectivement. Non, je maintiens. Par contre, en fait, c'est parce qu'il y a un autre spin-off qui sort en début d'année 2021 sur CBS.
C'est quoi? C'est le spin-off.
Non, un autre.
Ah, encore autre chose.
C'est pas Camp Coral, c'est The Patrick Star Show.
What?
D'accord.
C'est ni plus ni moins qu'un espèce d'un talk show, donc je pense que ça va être un petit peu comme les late show américains, mais présenté par Patrick et animé. Donc il y aura d'autres personnages, de la famille Étoile et il y aura voilà des personnages un petit peu originaux, mais voilà, je sais pas quoi dire. Maintenant que je sais que le créateur ne voulait pas de spin-off et que je vois que moins de 2 ans, enfin à peine 2 ans après sa mort, il y en a 2 qui sont lancés.
Ça fait un peu mal.
Et du coup, tu sens que le film a été piloté effectivement pour lancer un pour promouvoir Camp Coral qui est déjà sorti et deux pour sa sortie va coïncider avec celle de ce nouveau show, à peu près de Patrick, quoi.
Ça a du sens. Il y a une mode des personnages d'animation qui refont du, qui refont la même chose, qui refont des night shows américains. Il y a Dewey Do Night sur, dans la série DuckTales qui revient régulièrement et qui est plutôt très très drôle. Regardez DuckTales, la nouvelle série, elle est vachement bien.
En fait, il y a un côté où les plateformes de SVOD veulent un late show ou du moins un équivalent du late show. Et du coup, il y a pas mal de tentatives qui ont été créées. Il y a des trucs sérieux comme ce qu'a fait Apple. Et il y a des blagues un peu comme ça, quoi.
Ok, bon, on verra où ça nous mène. Alors finalement, Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble, c'est du flan ou c'est pas du flan, Johan?
Alors, sans surprise, c'est du flan. C'est du flan et c'est très beau. Enfin, voilà, encore une fois, le film est magnifique et il peut se regarder rien que pour ça, en fait. Ouais. Mais il y a vraiment un mauvais fond, je trouve, en eau trouble, justement. Je le sens, quoi. À la fin, tu vois, quand la fin du film, c'est Bob l'éponge qui dit au roi Poséidon que voilà, ce qui compte, c'est pas les apparences, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Et quand tu vois en fait ce qu'ils en ont fait de Bob l'éponge, de l'avoir voilà dénaturé à ce point-là pour ne garder que l'apparence, il y a un petit côté foutage de gueule, moi qui a un peu du mal à passer, quoi. Et sur ça, bah je peux pas passer l'éponge.
Bon, oh, bien, oh, ouais, bien vu.
Voilà.
Très bien
c'était
vu.
C'était écrit.
Et par quoi?
Bah, je suis un petit peu dans l'obligation, hein, à la lueur de ces révélations incroyables sur ce qui s'est passé, parce que j'avoue que j'avais pas eu le temps de me renseigner plus que ça sur les contours un petit peu de l'affaire. Je suis obligé de changer d'avis. Voilà, ça arrive parfois dans cette émission.
C'est le but.
Et même si j'ai passé un moment agréable devant, j'avoue que bon, bah, il y a une grosse un côté où je suis pas d'accord avec le fait de piétiner à ce point l'œuvre de quelqu'un qui, de toute façon, qu'il soit vivant ou pas, finalement tu le fais pas. Et le fait qu'ils réécrivent l'histoire de rencontre pour coller à leur spin-off, le fait qu'ils piétinent un petit peu tout son héritage comme ça pour se faire le max d'argent, et qu'en plus évidemment ça semble plus ou moins marcher, hein, malgré le Covid,
c'est moche. Ça fait clairement mal. Et pour moi, j'ai pas changé d'avis, puisque j'avais déjà un avis qui était assez tranché sur ce film en disant que c'était du flan avant de connaître le contexte autour. Donc maintenant que je le connais, autant vous dire que ça n'arrange pas les choses. Mais je tiens quand même à préciser une nouvelle fois que les animateurs, les gens qui s'occupent des décors et du design ont fait un super taf. Et pour eux, déjà, il faut quand même reconnaître ce boulot-là qui est très réussi. Hélas, c'est tout ce qu'il y avait autour qui n'allait pas. Et pour
Le film est visuellement vraiment inattaquable.
Chers auditeurs qui écoutaient le podcast, Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble, est-ce que c'est du flan ou est-ce que ce n'est pas du flan? Venez nous le dire sur le Twitter @foulanimé et on peut continuer la discussion ensemble sur discord.foulanimé.com. Le prochain flan sortira la semaine prochaine, alors peut-être en fin de semaine là, en tout cas quelques temps avant le 31.
Il sort le 24 celui-là?
Oui, voilà.
Oui.
Ah, bah joyeux Noël.
Joyeux Noël à tous, oui, effectivement.
Joyeux Noël. Mais en tout cas, il y aura un deuxième flan à la fin du mois qui arrivera très très vite après la sortie de celui-ci, c'est ça qu'on veut dire, mais on peut pas encore vous donner de date exacte. Nous vous rappelons en revanche qu'il n'y aura pas de podcast en janvier car nous prenons quelques vacances et que nous préparons une nouvelle saison avec des nouveautés. Et que le prélèvement Patreon ne sera pas fait en janvier. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos potes, car un flan partagé, c'est un flan spongieux. Merci Johan de nous avoir accompagnés. Où peut-on te retrouver?
Merci à vous. Comme j'ai dit au début sur ma chaîne YouTube, Johan Baumal, apprendledessin.com, et puis sur Twitter.
Allez-y, c'est vachement bien.
Merci. Voilà.
C'est quoi ton Twitter?
Twitter, c'est Johan Baumal, ouais, je crois. Et sur Instagram aussi.
Sans H, Johan.
Ouais.
C'est vrai, tu fais bien de le dire. Merci encore et par curieux.
Merci à tous les deux, merci à toi.
Merci à tous et nous vous souhaitons par avance donc d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon réveillon si vous réveillonnez ce soir, faites pas les fous, mais éclatez-vous.
Et
ciao,
pas comme
des
collédéons, hein, pas une addition salée dans l'eau et tout.
Allez, bye tout le monde.
Ciao.
Tenez-vous prêts.
Maestro. Une recette est un peu comme une formule. Une formule c'est tout comme un programme. Des éléments, des ingrédients mélangés d'une main très ferme et calme. Que
dois faire attention, sinon t'es cuit, tu vois. Si l'homme du mélange s'évapore,
dis-moi quel est cet ingrédient qui transforme cette source en trésor.
J'ai